Sur cette photo, on a Bernard, qui est un éleveur que j'ai rencontré un mois avant qu'il parte à la retraite. Il était en pleine transmission de sa ferme. Il est éleveur laitier. C'est un fils d'agriculteur. Il n'est jamais parti de son village qui s'appelle Bourg-des-Comptes, en Ille-et-Vilaine. Et son rêve d'enfance, c'était d'avoir un cheval. Donc là, on est de dos. Et on a sa jument qui s'appelle Étoile et qui est un cheval de trait, donc assez massif. Et on a Bernard qui regarde sur la droite. Il a un pull très hivernal qui fonctionne très bien avec le décor un peu vert, avec plein de paille dessus, parce qu'on venait de repailler l'étable.
Elle est très douce, cette photo, je trouve.
Ouais, bah, un peu comme Bernard, en fait. C'était un monsieur qui a commencé à accueillir des gens chez lui parce que bah, il ressentait la solitude de l'agriculteur. Il n'a jamais eu de vie de famille, il n'a jamais trouvé quelqu'un. Et il était en dépression profonde, comme beaucoup d'éleveurs. Il a été interné pendant un temps, et en fait, quand il est ressorti, il a commencé à accueillir des gens, et ça l'a sauvé, en fait, d'accueillir des gens chez lui. Il n'en a pas besoin, il a toujours travaillé seul. Mais c'était plus pour ne pas se sentir seul, et c'est un monsieur qui m'a énormément touchée, parce que quand je l'ai interviewé et que je lui ai demandé ce que ça lui faisait de partir, il commençait à pleurer parce que il vendait une partie de son cheptel de vache, et c'est un amoureux de ses animaux... Et du coup, de lâcher une partie du troupeau, et il était hyper ému, et il était très touchant, très doux.
Galerie Invisible, le podcast. À la rencontre d'Evan Merle, qui expose sa série Ce Maison à la Galerie Invisible jusqu'au 13 avril 2024.
Je m'appelle Evan Merle, je suis photographe, reporter et culinaire. Je suis rentrée en école de photo en 2011. J'ai fait 3 ans d'études de photo et après j'ai travaillé 4 ans en tant qu'assistante plateau et assistante lumière à Paris. Et après je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à essayer de gagner ma vie avec autre chose que l'assistanat, juste avant le Covid. Donc ça fait 4 ans que je vis de la photo, de mes photos et pas des photos des autres. La série qui est exposée à la Galerie Invisible, elle s'appelle « Ce Maison ». C'est une série qui met en valeur des paysans et des paysannes un petit peu partout en France. Et elle est née en 2019, à une époque où je comptais arrêter la photo et je voulais devenir paysanne. J'ai commencé à faire du woofing, qui est du bénévolat dans des fermes biologiques. Et en fait, je suis partie 3 mois au woofing et j'avais pris un petit Fuji et j'ai ressorti un reportage photo dans chaque lieu où j'allais. Et je l'avais pris comme ça dans mes bagages en me disant peut-être que j'aurais envie de faire une ou deux images, mais c'était vraiment pas le but de ce voyage. Moi, je voulais vraiment savoir si ça me correspondait de travailler dans les milieux agricoles. Donc, je suis allée dans plein de fermes différentes pour tester plein de choses différentes pour voir ce qui me plairait le plus. Et puis finalement, la photo, du coup, m'a totalement rattrapée. Je me suis énormément plu à faire ça, à raconter les histoires des gens chez qui j'étais. Le premier, c'était dans une ferme équestre. Et j'ai commencé à faire quelques photos par-ci, par-là, des chevaux. C'était en Corse, c'était super beau. C'était assez photogénique au final. Donc là, on est sur une photo horizontale. On est dans une espèce de ce qu'on pourrait imaginer une forêt. Et on a un petit chemin en pierre. Et en face à nous, il y a une vache. Donc c'est une vache corse. On est à la fin de l'été. Et ce sont des vaches qui descendaient d'estive. J'étais chez une personne qui tient un ranch et donc elle propose des balades, mais elle aide aussi un de ses amis monter et descendre les vaches de la montagne. Ce qui se fait plus beaucoup parce que maintenant ça se fait en bétaillard et du coup là on le fait à cheval. Et donc j'ai eu l'occasion de faire et la montée au mois de juin et la descente en septembre. Donc là on est sur la descente des vaches, on est début septembre. On voit qu'il y a plein de bocs de châtaignes, paysage de Haute-Corse. Je suis restée un mois là-bas et à la fin j'ai demandé à la personne chez qui j'étais, est-ce que je peux te faire un portrait? Est-ce qu'on peut parler un peu de ton travail? Et ça a un peu mûri comme ça au fil du temps chez cette personne. Et puis du coup, après, quand j'arrivais, je leur disais, je suis photographe, j'ai quand même envie de prendre des photos. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai commencé une petite newsletter, mais qui était à destination de ma famille et de mes amis. Et je racontais un peu, c'était l'été 2019, et l'été 2019, c'était un été de canicule. Du coup, je leur racontais ce qui se passait dans les fermes parce que je suis allée dans le Jura et les paysans chez qui j'étais me disaient qu'en fait, ils commençaient déjà à donner du foin à leurs brebis et que normalement, ils font donc 2 traites par jour, une le matin et une le soir, et qu'ils avaient été obligés de passer en monotraite parce qu'il y avait trop de sécheresse et du coup, pas assez à pâturer alors qu'on est quand même dans le Jura. Et du coup, je racontais un petit peu tout ça. Et quand je suis rentrée, j'ai un peu maturé la chose, j'ai décidé de la mettre un petit peu mieux en page et puis de la proposer à d'autres gens, de faire des vraies interviews. Et c'est comme ça qu'est née ce Maison. Donc c'était une newsletter que j'envoyais 4 fois par an au fil des saisons. Voilà, qui était pour moi une excuse pour aller chez les gens, parce que je ne me sentais pas légitime de dire « bonjour, je suis photographe, est-ce que je peux venir vous photographier ?» Donc la newsletter, ça crée un support un peu. Pour poser toutes les questions que j'avais envie de leur poser, parce que leur métier, moi, me passionne. Et en fait, il y a plein de choses qui en ont découlé. Moi, maintenant, c'est devenu vraiment mon métier de travailler sur l'agriculture et l'alimentation au sens large. Et on vient me chercher pour ça. Je travaille pour la presse, pour l'édition. Et en parallèle, grâce à cette newsletter, on m'a proposé un projet de livre avec les éditions Ulmer.
Donc en voulant quitter la photo, tu as percé dans, la, dans, dans, dans
ouais,
un domaine
mais,
de la photo.
Mais j'avais un prof de workshop en photo qui m'avait dit... parce que moi, quand je suis arrivée en école de photo, je voulais faire de la photo de mode. Et il m'avait dit... j'avais fait un truc qui était super moche et j'avais eu 4... Enfin, pour mon ego, c'était horrible. Et il m'avait dit, mais tu t'amuses pas, ça se voit. Et si tu t'amuses pas, en fait, ça marchera jamais, la photo. Et j'ai mis très très longtemps à le comprendre et je crois que quand j'ai commencé à faire des photos agricoles, bah, je me suis jamais autant amusée en photo et j'ai enfin compris ce qu'il voulait me dire. Dans cette série, il y a pas mal de choses différentes. Moi, j'aime beaucoup me rapprocher, donc il y a quand même beaucoup de gros plans, de détails sur le dos d'une vache ou sur des vers de terre. C'est une reproduction de vers de terre, ce qui est assez rare à voir. Il y a quelques portraits. Je sens que j'ai une retenue à aller vers les gens. Et du coup, je crois que ça se sent dans les photos parce qu'il n'y a pas tant que ça de personnages finalement. Alors, c'est une photo d'une scabieuse qui est une fleur rose. Donc, on est au début de l'automne et je l'ai photographiée à travers une serre qui était très humide. C'est dans une ferme qui s'appelle Paonia, qui est une ferme florale à Orvault, près de Nantes. Estelle et Simon, ils se sont installés il y a 3-4 ans dans l'idée de relocaliser et de proposer de la fleur coupée qui soit locale. Donc, ils travaillent avec un gros maillon de fleuristes qui sont en Loire-Atlantique. Et ils sont sur les marchés dans le coin. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, on est sur une photo de préparation de tomes de brebis. Donc, on est dans le Jura et c'est un gros plan sur une main avec des espèces de grumeaux de lait. Donc, c'est le caillage du lait qui est en train de se faire.
On sent vraiment le travail artisanal.
Ouais, avec cette espèce de matière, on ne sait pas trop ce que c'est si on ne connaît pas le milieu. Juste en dessous, on est sur le gros plan d'un pelage de vaches. Donc, c'est une vache bretonne pinoire qui est une race locale de Bretagne et qui a failli disparaître dans les années 80 parce qu'on est allé chercher des races de vaches qui étaient très, très, très productives, du coup, sur, en général, de la Primolstein. C'est la vache laitière de base qui fait je ne sais pas combien de litres de lait. Et Céline et Christophe ont décidé, au départ, ils voulaient travailler sur de la vache nantaise, qui, pareil, est aussi une race de vache qui a failli disparaître. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, la nantaise, elle n'était plus du tout adaptée à faire du lait. Du coup, aujourd'hui, elle revient, mais plutôt en vache à viande. Et finalement, ils ont fait leur cheptel avec de la bretonne pinoire. Et eux, ils ont seulement une dizaine de vaches qui passent à la traite. Pendant très longtemps, ils ont fait la traite à la main. Ils ont dû arrêter pour des questions de santé, mais ils sont très, très peu mécanisés. Et ils produisent du beurre, du fromage, des crèmes. C'est une race rustique et du coup, elle est adaptée à son terroir. Donc, c'est une vache qui va pouvoir... c'est une petite vache, donc elle ne mange pas énormément, elle produit moins de lait. Mais par contre, elle va beaucoup mieux résister aux maladies que toutes ces vaches qui ne viennent pas du coin, qui sont changées génétiquement pour être des vaches à lait. Et du coup, elles sont plus adaptées au territoire. Comme la nantaise, par exemple, s'adapte très bien au marais qu'on a autour de Nantes, quoi.
Derrière tout ça, il y a un engagement.
Ouais.
Parce que quel type de ferme t'es allée voir ?
Je suis allée voir, donc c'est que des fermes qui travaillent sans pesticides. Elles n'ont pas toutes le label bio parce que c'est un label qui coûte cher et qui n'est pas très exigeant. mais c'est des petites fermes pour une grande majorité. Et c'est des lieux quand même assez alternatifs. Par exemple, il y a un lieu dans les Cévennes où ils squattent dans la forêt parce qu'ils n'ont pas eu accès aux terres. Donc, ils ont un bail en fermage, mais par contre, ils ont construit leur cabane en plein milieu de la forêt. Je me suis rendue à la ferme du Truffier chez Fabienne Gomez, qui est une éleveuse de porcs noirs gascons et de vaches angus. C'est quelqu'un qui travaille, elle est en bio, elle a le label Nature et Progrès. Et elle est très, très engagée dans ce qu'elle fait. Il faut savoir que l'élevage porcin en France, c'est 95% d'intensif. Et les fermes qui sont en plein air et en bio, ça représente moins de 1% de ce qui se fait dans l'élevage. Et donc elle maîtrise absolument tout. Elle est sur une trentaine d'hectares et elle a 10 vaches et une vingtaine de cochons, il me semble. Et elle fait les céréales qu'elle donne à ses animaux. Et elle travaille vraiment sur un système en circuit fermé où elle maîtrise quand elle le peut tout parce que les aléas climatiques changent beaucoup de choses, notamment pour les céréales. Moi, quand je suis allée la voir, c'était le printemps, mais en fait, il n'avait pas assez plu. Du coup, l'orge qu'elle donne à ses cochons n'avait pas assez poussé. Les sols étaient déjà craquelés, un peu comme en plein été. Et du coup, les adventices, donc les plantes dont on ne veut pas sur le champ, avaient pris le pas et elle avait les devoirs acheter des céréales pour la première fois de sa vie. À une époque où la guerre en Ukraine commençait, donc le coût des céréales était vraiment élevé. C'est une utopie, l'autonomie, elle n'est pas autonome pour tout, et par contre, elle a un super réseau de paysans. Elle, effectivement, elle mange pas beaucoup de viande, mais elle mange la viande de ses animaux. Elle a aussi des brebis qui lui servent de tondeuse, donc on les voit se balader dans le jardin. Elle fait un potager l'été, mais en fait, c'est tellement chronophage et elle est toute seule sur sa ferme, donc ça lui demande énormément de temps, elle ne peut pas tout faire. Par contre, il y a un super réseau de paysans autour, et elle fait partie de Nature et Progrès, elle est au conseil d'administration de ce label. Du coup, ils se retrouvent beaucoup entre eux, et moi, j'ai eu la chance d'assister à une de ces réunions, où ils s'entraident énormément, et voilà, il y a un vrai réseau d'entraide paysanne. Le woofing, ce n'est pas là pour supplémenter une main-d'œuvre qui pourrait être payée, hein, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de partager des savoirs. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, je lui ai demandé pourquoi elle accueillait des gens, et elle a dit, mais en fait, si on veut qu'à un moment les choses changent, il faut bien mettre une pierre à l'édifice et montrer ce qu'il est possible de faire. Et effectivement, elle fait tout toute seule. Son père était paysan, donc elle a repris la ferme en réduisant le cheptel de porc qu'avait son père. Et oui, elle fait tout toute seule. Et elle se heurte aussi au fait d'être une femme dans l'agriculture et d'avoir tout le monde qui arrive sur sa ferme en disant « Ok, il est où l'exploitant agricole ?» Alors qu'elle, elle fait des tonnes de choses. Elle a fait du vin, elle a fait de la bière. Elle est incroyable. On est sur un gros plan d'une main qui est un peu dans l'ombre et on a un espèce de tas de pierres à l'arrière. Donc dans sa main, cette personne tient une fleur jaune, c'est de la moutarde. Il faut savoir que la moutarde, c'est plus beaucoup fait en France. La plupart sont produites au Canada avec des pesticides dégueulasses qui sont interdites en France, alors qu'en France, on a vraiment le droit de mettre des pesticides dégueulasses. Hein. Mais ceux-là sont interdits. Et 80% de la moutarde, elle vient pas du tout de France. Ils sont rares les producteurs qui en font. Et donc Edouard s'est installé il y a quelques années en Bretagne, dans le Morbihan, et il a décidé de produire de la moutarde 100% française. Donc les pierres qu'on voit à l'arrière, c'est les pierres qu'il a enlevées de son champ quand il l'a travaillé. Donc il propose une moutarde qui est 100% locale, il produit son vinaigre aussi. Le vin qu'il utilise pour son vinaigre, ce sont des ratés de vignerons qui sont dans le coin, et tout est sourcé à côté. Il y a Jocelyn, qui est à l'écoferme des Mille et Une Pattes, qui est une ferme qui produit des œufs et de la viande de bovin. Et il a réussi à s'installer grâce à Terre de Liens, qui est un organisme qui rachète des terres pour les mettre en location derrière pour des paysans. Et ce sont que des terres qui sont en bio. Et l'idée, c'est qu'elles sortent du marché immobilier, donc de la spéculation. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2/3 des fermes qui partent à l'agrandissement quand un paysan part à la retraite. Terre de Liens, ils rachètent ces terres et ils installent des paysans qui sont en bio à la place. Donc Jocelyn, il travaille en agroécologie et il a ses terres du coup en location. Et après, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est la CIAP. C'est la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et du coup, là, c'est vraiment des gens qui sont en projet d'installation. Donc ils ont le statut de stagiaire paysan créatif. Et du coup, ils vont être sur une exploitation agricole. Donc là, c'était à Saint-Herblain. Donc en fait, ils sont quatre sur la ferme qui fait 2 hectares en bio. Et ils voient pendant un an comment fonctionne une ferme bio qui est rentable, en fait. Donc ils tournent un petit peu. Ils vont faire une semaine de l'administratif. Une semaine, ils sont sur le maraîchage. Une semaine, ils vont être chefs de culture. Et la quatrième semaine, elle est dédiée à leur projet. Donc c'est hyper intéressant de les rencontrer et de voir chacun ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Roméo, c'est une reconversion professionnelle, il avait la quarantaine. Et en fait, il est arrivé en se disant qu'il voulait faire du maraîchage sol vivant. C'est un peu le fantasme qu'ont les néo-ruraux de se dire « moi, je vais arriver sur une petite surface, je vais faire un truc en permaculture, etc. » Et quand tu te confrontes à la réalité de ce que c'est que de réussir à se sortir un peu d'argent avec l'agriculture, tu déchantes et ton projet, il change.
Est-ce que toi, ça t'a fait cet effet-là quand t'es allé faire du woof?
Ouais.
Peut-être pas du tout de ce milieu-là?
Non, mon père, il est paléontologue, donc la terre, je connais bien, mais du coup, plutôt le souterrain. Et au départ, j'étais pleine d'utopie, et puis je pensais que c'était possible d'être autonome, et je connaissais quelques trucs parce que j'avais un ami qui était photographe de pub, qui avait tout plaqué pour devenir maraîcher. C'est un peu comme ça que j'ai connu ces milieux-là. Donc je savais que c'était pas si facile que ça, mais je pense que je me rendais pas compte avant de passer plusieurs jours dans une ferme et de créer vraiment des liens de proximité avec les paysans et les paysannes que je rencontrais, de ce qu'était la réalité et la dureté de ce milieu-là. Parce que moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, et même si j'ai grandi à la campagne, finalement, l'agriculture, je la connaissais pas du tout. Et j'ai un peu déchanté en arrivant, et en même temps, c'était un peu beau parce que je sortais un peu de ma naïveté. Mais c'est quelqu'un que j'ai interviewé pour mon livre qui me disait « Réaliser son rêve, c'est faire le deuil de son fantasme ». Et je crois qu'il y a un peu de ça qui s'est passé. C'est que lui, ça, il me disait que sa ferme, c'était son fantasme absolu, mais que réaliser son rêve, ça prenait beaucoup de peine parce que c'est très dur. Et je crois qu'il s'est passé un peu ça aussi, de me rendre compte de ce que c'est vraiment de l'agriculture. Et c'est ça qui m'a donné envie de le documenter. C'est bucolique, on imagine plein de choses, mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui vivent de leur métier. Enfin, il y en a 9% qui sont au RSA et on a à peu près 60% qui seraient éligibles soit à la prime d'activité, soit au RSA, mais qui ne le demandent pas. Donc c'est quand même pas des métiers qui nourrissent, c'est des métiers où on a travaillé entre 60 et 80 heures par semaine. C'est très physique, c'est très chronophage, pour aucune reconnaissance derrière. Et les aides vont surtout aux grosses fermes parce que les aides de la PAC, donc la politique agricole commune, sont décidées en fonction du nombre d'hectares des fermes. Donc plus une ferme est grosse, plus il y a d'aides. Et moi, j'ai grandi en Île-de-France, près du plateau de Beauce. Donc la Beauce, c'est une région dans laquelle il y a tous les champs de betteraves aux néonicotinoïdes. Et en fait, il n'y a pas un arbre sur des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment des terres, c'est horrible. Et moi, je pensais que c'était ça l'agriculture quand j'étais plus jeune. Et mais il n'y a plus de vie. C'est vraiment un gros no man's land où tu n'as que des champs et des champs à perte de vue, sans un seul bocage en fait. Tout a été rasé. L'époque où j'ai commencé à faire ça, j'étais hyper très 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 angoissée. Je faisais beaucoup ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et en fait, puis moi, voilà, je venais de cette région où il n'y avait pas d'arbres, où l'agriculture est vraiment dégueulasse et les champs de pesticides, ils sont absolument partout. Et de voir d'autres régions de France et de découvrir d'autres paysages agricoles, c'était incroyable. Et de voir tous ces gens qui se battaient, et c'était difficile. Et j'ai pas du tout envie d'idéaliser ça, mais ça m'a redonné de l'espoir de voir. Il y a des gens chez qui j'ai fait du woofing qui sont devenus des amis qui m'ont dit nous on culpabilise parce qu'on va pas aux manifestations et tout, on n'a pas l'impression d'être militants. Mais les gars, ils ont repris un élevage porcin intensif, ils en ont fait un jardin forêt qui est incroyable et ils ont tout construit eux-mêmes. Enfin, et en fait, ils sont hyper militants, mais ils en ont pas conscience. L'exposition, elle intervient à un moment où on a beaucoup parlé d'agriculture dans les médias et finalement, c'était pas forcément prévu comme ça, mais je trouve ça chouette de montrer une autre agriculture à un moment où on a beaucoup parlé des exploitants agricoles. Exploitants, c'est un mot fort, hein, qui se sont battus pour une revalorisation de leur métier. Et ceux dont on entend parler, c'est beaucoup les gros, c'est beaucoup ceux qui adhèrent au syndicat majoritaire qui s'appelle la FNSEA. Mais voilà, c'est chouette de montrer plein d'autres paysans qui font autre chose et qui se battent tout autant. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Paysages comestibles et nouveaux jardins nourriciers », qui est paru en fin 2022 aux éditions Ulmer. C'est un projet qui a commencé grâce à ma newsletter. Quand je l'ai lancé, j'avais mis dans ma boucle Lila Hervé-Gruyère, qui est mon éditrice, et avec qui j'avais déjà travaillé sur l'illustration de livres. Et en fait, elle a aimé ce que j'avais écrit. La ferme dans laquelle j'étais allée lui parlait beaucoup. Et elle m'a dit, écoute, j'ai reçu un mail un jour, j'y croyais pas trop. On a envie de faire un beau livre sur les paysages agroécologiques, la permaculture. Il existe déjà plein de livres pratiques, mais par contre, quelque chose qui va être dans l'onirique, ça n'existe pas. Et on veut que ce soit un bel objet. Est-ce que ça dit de le faire? Et du coup, c'est comme ça que le projet est né. On se balade dans 12 lieux à travers la France. Je l'ai construit comme une balade dans les jardins. Donc, dans chaque endroit, il y a énormément de photos, bien sûr, mais je chemine un peu dedans. Je fais un espèce de parcours du début à la fin de la ferme, comme moi, je l'ai visité. J'ai essayé de rester à chaque fois 3 jours chez les gens pour bien prendre le temps de les rencontrer, de cheminer dans les jardins. C'est un livre qui est disponible dans toutes les librairies et il est aussi en vente pendant toute la durée de l'exposition à la Galerie Invisible.
C'était Evan Merle, photographe. Son exposition Se Maison est visible les vendredis et samedis de 15h à 18h30 jusqu'au 13 avril 2024 à la Galerie Invisible, 8 rue Mazagran à Nantes. Prise de son, montage et mixage, Rudy Burban.